Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, ça arrive des fois. Mes amis, en ce moment, le Seigneur nous parle de pratiquer notre foi, de mettre notre foi en pratique. Et je dis, comme l'a dit le pasteur Alexandre, c'est vrai que j'ai commencé une série sur la guérison, la puissance de la guérison, l'autorité du royaume de Dieu et notre place en tant que chrétien. C'est pas seulement pour vous parler de la question du fait que Dieu guérit, je pense que ça vous le savez, quoique parfois on peut en douter dans nos vies. Mais c'est aussi pour nous amener les uns et les autres à prendre notre place dans l'autorité du royaume. Et je me propose aujourd'hui de continuer ce thème sur la guérison et je continuerai encore jeudi. Et au fur et à mesure que nous allons prêcher de cela, à un moment donné, nous allons aussi passer un temps pour communiquer les dons de puissance. Amen. Pour que vous aussi, dans votre témoignage, vous aussi, dans votre entourage, vous puissiez être une solution et non pas un problème. Souvent, les chrétiens se plaignent, etc., mais ils font pas grand-chose. Ils sont pas souvent en action. Et le Seigneur nous demande réellement de devenir nous-mêmes une guérison, devenir nous-mêmes une bénédiction, devenir nous-mêmes quelqu'un qui va confronter la puissance des ténèbres. Et là où il y a la puissance des ténèbres, eh bien nous proposons en tant que chrétiens de ramener l'autorité du royaume, de ramener l'autorité des notions du royaume, l'autorité des notions de la puissance, des notions de la sainteté. Là où il y a eu du péché, là où vous ne vivez pas, où vous n'avez pas vécu, où autour de vous on ne vit pas dans la réalité de la bénédiction de Dieu qui passe par l'obéissance, eh bien, il faut ramener l'autorité et la loi du royaume pour que la bénédiction puisse couler. Si tu es un chrétien, une chrétienne, et que tu es en train de commencer à badiner avec les lois du Seigneur, les bénédictions du Seigneur, les préceptes du Seigneur, et si ce qui était pour toi péché avant devient maintenant acceptable, tu es en grand danger. Si tu es plus ou moins dans le compromis par rapport au péché, par rapport aux choses que Dieu enseigne dans sa parole de Dieu, et que tu dis, ben, de toute façon, la Bible peut-être ne veut pas dire cela, on peut peut-être le comprendre autrement. On le comprend parfois, et parfois les chrétiens, quand ils commencent à être tentés, ils commencent à dire, ben, c'est pas un si grand péché. On commence par une cigarette, puis on continue par un cigare, puis on en prend deux, trois, puis de toute façon c'est pas écrit dans la Bible. Et puis après on commence de plus en plus, de plus en plus, et on se donne des excuses et on tombe. C'est la même chose au niveau affectif. Avant on était convaincu que Dieu bénissait la relation à l'intérieur du mariage, et soudainement, eh bien, un jour ou l'autre, parce qu'il y a une opportunité, on voit l'avantage immédiat, et on voit pas qu'on est en train de se faire tomber, et puis on commence à dire, oui, mais de toute façon, est-ce que la Bible dit vraiment cela, etc. Puis, de toute façon, il n'y a pas de mal, puisqu'on s'aime, etc. On a des projets de faire notre vie ensemble. Quelle bêtise, tu es en train de te faire tomber, de te faire avoir par le malin, parce que si tu crois que le diable va te laisser comme cela, et au lieu de prévoir dans la bénédiction, tu es en train de prévoir dans le compromis, et le compromis, c'est vraiment une promesse con. N'est-ce pas? Et au début, tu auras un avantage fugace, et c'est pour ça qu'on tombe dans le péché. Le diable nous attire parce qu'on voit un intérêt immédiat. on voit que ça va nous soulager. Parce que quand on est sous la tentation, on est sous la pression. Et la tentation, ça marche comme ça. Ça te prend tellement la tête que tu penses plus qu'à ça. La convoitise, c'est pareil. C'est pareil, c'est voir d'une manière... Mais tu vois quelque chose, et puis soudainement, ça te prend la tête. Par exemple, si tu as la convoitise d'une jolie femme, ça va commencer à te prendre la tête. Tu as vu une belle pulpeuse à la télévision. Et soudainement, tu es là, tu commences à y penser. Tu dis, oh, si j'avais cette pulpeuse, ce serait trop. Ce serait trop, trop picot, trop piquant, ce serait génial. Ça me secouerait. Et puis tu commences à dire, waouh, j'imagine. Et puis j'irai faire les courses et j'aurai ma pulpeuse à côté de moi avec ses lèvres. Et ça commence à te prendre la tête. Et soudainement, tu commences à voir. Puis tu rentres à la maison, puis tu vois ton épouse qui te dit, bonjour chérie, je t'ai préparé un peu, enfin, j'ai pas faim aujourd'hui. Et puis même le bon repas qu'elle t'a préparé, tu es là et tu dis, ah, c'est dégueulasse. Puis tu commences à ça te prend tellement la tête. Tu es sous pression, tu es sous tentation, qu'à un moment donné, tu ne vois plus que ça. Pareil, mesdames, vous voyez un bel homme avec les tablettes de chocolat qu'il a. Et dans le film, il arrive, il prend la belle, il dit, oh ma belle. Il la sauve, il saute d'une falaise. Et il arrive à tomber bien, bien, bien là. Il tombe pas sur le dos quand il plonge, hein, parce que... Mais non, lui, il saute de la falaise. Il dit, attends, j'arrive, Jeanne, c'est moi, j'arrive. Et il plonge. Déjà, il avait justement prévu le slip, le maillot de bain qui était là. Et il plonge, et là, et il nage, il brave les éléments. Un requin commence à arriver, il le menace. Il prend le requin et justement, il avait pris un couteau dans son maillot de bain. Il arrive, il le met dans la tête du requin. Et puis alors à ce moment-là, Jeanne qui est en train de mourir, eh bien, et de se noyer, il la prend, et c'est la romance, il dit, veux-tu m'épouser? Et toi, tu rentres à la maison et tu as ton mari qui dit, ah chérie, ça va aujourd'hui? Et tu dis, oh, il ferait bien de perdre 10 kilos celui-là. Lui, s'il plongerait, c'est pas sur le dos qu'il tomberait, hein. Ce serait sur le ventre, hein. La mer, elle serait débordée. Et puis tu commences à convoiter, tu dis, ah, si j'étais dans le monde, au moins, ce serait plus cool. Parce qu'avec la vie chrétienne, là, soi-disant, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Et puis voilà, c'est ça, d'être chrétien. Et tu crois que tu n'es pas en train de tomber dans la tentation? Parce que la question, c'est que si tu succombes à cette tentation, à un moment donné, tu vas voir l'envers du décor. Et quand toi, tu vas plonger dans la falaise, le gros problème, c'est que le diable, il aura prévu un caillou juste en dessous. Et bah, tu vas t'éclater. Et le problème, c'est que toutes ces tentations qui peuvent venir autour de nous chaque jour, eh bien, vont être pour nous fâcheuses, vont être pour nous des grands problèmes. Si nous ne restons pas fondés dans la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit pour toi l'autorité absolue. Dis-le à ton voisin. Et si tu désobéis à la parole de Dieu en quelque chose, fais attention, il est normal que tu sois tenté. Il est normal que tu sois tenté. Nous sommes tous tentés. Mais justement, la maturité chrétienne, c'est de savoir discerner là où nous sommes tentés, de regarder comment notre ennemi est en train de travailler, d'analyser la manière dont il travaille, parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles nous pouvons être tentés. La vanité, la gloire de soi-même, etc., plein de choses. Et lorsque tu as repéré quel était le domaine dans lequel tu étais tenté, la dernière chose qu'il faut faire, c'est d'y succomber. Il faut faire exactement le contraire. Tout à l'heure, le Seigneur a révélé qu'il y avait un problème dans la foi. Au moment où Dieu est en train de travailler pour que cette Église continue à rentrer dans une autre dimension de puissance, eh bien, tout à l'heure, le Seigneur a révélé qu'il y a des esprits d'incrédulité qui arrivent. Et le Seigneur nous a parlé de parler sur la question financière. Pourquoi ? Parce que si nous ne dominons pas Mammon, c'est Mammon qui nous domine. Il n'y a pas de no man's land entre les deux. C'est pareil, Dieu nous a donné trois devoirs. La prière, le jeûne et le don. Ça, c'est trois devoirs du chrétien qu'on trouve dans Matthieu. Beaucoup d'autres choses, nous faisons un peu ce que nous voulons, si nous voulons obéir ou pas, mais là, il y a trois, quand tu deviens chrétien, il y a trois devoirs importants. Prier, ce n'est pas quelque chose qui est facultatif et optionnel, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Il faut te discipliner chaque jour. Quand tu te lèves le matin, je te l'ai déjà dit la semaine dernière, tu passes à la station, BP, Bible, prière. Et ensuite, tu démarres. Il faut que tu apprennes à dompter ton réveil. Parce que si tu ne domptes pas ton réveil, et Dieu sait que parfois c'est difficile, tu auras des problèmes dans ta vie chrétienne, la tentation arrive immédiatement. La Bible dit un peu te reposer pour dormir, un peu croiser les bras, et la pauvreté te surprendra comme un homme en armes, comme un voleur. Or je ne veux pas, mes chers amis, que vous soyez dans la pauvreté morale, dans la pauvreté spirituelle, dans la pauvreté affective, dans la pauvreté conjugale, dans la pauvreté familiale, ou dans la pauvreté financière, dans la pauvreté psychologique, ou dans la pauvreté de la générosité, dans la pauvreté de la paix intérieure. Non, je voudrais que vous abondiez à tous égards, alléluia. Et ma prière pour vous chaque jour, c'est que Dieu vous enrichisse à tous égards. Mais la richesse n'est pas mesurée à ce que l'homme possède. Tu peux posséder la terre entière et être un pauvre caillou, avoir un cœur faible, avoir un esprit faible, être dominé par les pulsions de ce monde, être conduit par d'autres forces et non pas par la force de la piété, de la force morale, de l'intelligence. Savez-vous ce qui fait le charme d'un homme? Ça n'est pas ses tablettes de chocolat, même si c'est toujours bien à voir et beau à voir. Un homme bien costaud, moi j'aime regarder les nageurs, ils sont tellement bien sculptés. Mais le charme d'un homme, c'est sa bonté. Le charme d'une femme, ça n'est pas ses atours simplement physiques. Le charme d'une femme, c'est la beauté du cœur. Tu peux avoir une femme qui soit belle, mais qui soit une véritable horreur à l'intérieur. Puis parfois, il y en a qui sont pas belles et qui sont aussi des horreurs à l'intérieur. Ça, c'est pas le problème. Ça, c'est dangereux aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que parfois, il y en a qui disent tout ce qui est beau est mauvais à l'intérieur. C'est pas vrai. Moi, j'ai une femme magnifique. Très belle, en plus là elle laisse encore plus pousser ses cheveux et tout, waouh, hein. Pouf. Et elle est belle à l'intérieur. Elle est intelligente. L'autre jour elle me dit, Freddy ne pratique pas la procrastination. Je dis, oui ma chérie. Vous savez ce que c'est la procrastination? Hein? Oui, bravo. C'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Bravo, super. Félicitations Patrick. On peut l'applaudir quand même là. Hein. Qu'est-ce que c'était l'autre fois, Maria, que j'allais pratiquer le quoi? Ah oui, oui. Voilà, je vais pratiquer un discours homodiégétique avec vous ce matin. Voilà un peu à quoi on s'amuse en ce moment avec ma femme, hein, voyez. Si vous avez une femme qui passe un capes, voilà, vous avez ça. Puis, alors, on s'endort facilement après. Hein. Chérie, dimanche, ne pratique pas trop le discours homodiégétique et ne faut pas pratiquer non plus la procrastination par rapport au sujet sur la guérison. Alléluia. Bon, d'accord, ma femme. D'accord. Bon, alors, je lui ai répondu, oui, non, je vais aborder le thème vétérotestamentaire de la grâce qui trouve... Voilà, bon, bref, bon, j'arrête. Ce que je veux dire, mes amis, c'est que l'important, c'est d'être beau intérieurement. C'est d'être beau intérieurement. Et si les valeurs du royaume de Dieu deviennent vos valeurs, vous allez vous enrichir à tous égards. La semaine dernière, nous avons parlé de comment Dieu nous parle. Quelles sont les balises de sécurité que Dieu nous donne pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et c'est très important que Dieu puisse nous révéler sa volonté. Mais ensuite, il faut également que nous soyons fondés sur la parole de Dieu, parce que cette parole de Dieu, c'est ce qui va nous donner la puissance. Et l'obéissance au principe divin va ramener la confiance en Dieu. Parce que au plus nous entrons dans le compromis, au moins nous allons développer une puissance, une connaissance et une confiance en Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu ne peut pas nous bénir. Les principes divins ne peuvent pas devenir nôtres. Donc la puissance qui est attaché au principe divin ne peut pas devenir nôtre si nous ne travaillons pas dans une sainteté et si nous ne nous changeons pas le cœur. Il faut donc apprendre à aimer les principes de Dieu. Le psalmiste David disait « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». Il disait « Mon âme se délecte dans ta présence ». Et il disait dans le psaume 109 « Je serre ta parole contre mon cœur afin de... » Pardon, pas le psaume 109, mais il disait « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et dans le psaume 119, verset 105, il disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Alléluia. Et mes amis, je suis parfois affligé de voir la manière dont le diable nous tente. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes sous la tentation en ce moment. Il faut donc faire attention. Quand vous êtes sur la tentation, vous savez ce qu'il ne faut pas faire ? Rester seul. Et parfois dans les églises, on a peur de le dire qu'on est sous la tentation. Quand le pasteur arrive, il te dit « Alors ça va ?» Déjà, quand le pasteur te demande si ça va, parfois ça t'énerve. Parce que tu voudrais qu'il te dise autre chose. Mais s'il te demande si ça va, c'est pas une formule de politesse. Un gars comme ça, qui passe, qui croise et qui te dit ça va, oui, c'est une formule de politesse. Mais un pasteur, normalement, qui te dit ça va, c'est qu'il est en train de prier pour toi et qu'il est un petit peu inquiet sur certains points. Oui, oui. Cette semaine, j'ai appelé un paroissien dans mon bureau. Je lui ai dit, dis-moi si ça va. Il dit, pourquoi tu m'appelles? Je dis, parce que je sais que ça ne va pas, je prie pour toi. Et le Seigneur m'a fait peur. Et oui, il avait vraiment un problème. Et à la fin, on a prié ensemble, et ça lui a fait du bien. Ça y est, je me sens libéré. Quand tu as une tentation, ne reste pas tout seul. Ne reste pas tout seul. C'est à ce moment-là qu'il faut appeler les serviteurs de Dieu, ou il faut appeler un ami, un ancien, il faut appeler quelqu'un qui pourra prier pour toi. Parce que le diable travaille dans l'ombre. Alors là, encore une fois, je vais vous dire, j'ai pas prévu de prêcher comme ça ce matin, hein. Mais je me laisse conduire, là, je sens cela. Le diable travaille toujours dans l'ombre. Quand quelqu'un te dit, ne le dis pas au serviteur de Dieu, hein, ne le dis pas au pasteur. Hein. Ouh, ding, ça devrait te faire tout, lumière rouge, tout. Ouh, il y a un péché caché, il y a quelque chose de caché là qui est pas bon, il faut pas que je me laisse entraîner là-dedans. Et moi, j'aimerais vous dire, il faut pas que dans cette église, on se sente jugé. Maintenant, ne pas se sentir jugé, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas juger des situations de péché. Mais ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est les serviteurs qui le font. Nous n'allons pas accepter qu'il y ait n'importe quel péché qui se fasse, parce que ce n'est pas pour votre bien. Mais par contre, quand vous avez une tentation, il ne faut pas rester seul. Parce que si tu le dis, cette tentation, déjà tu mets les choses à la lumière. Et dès que tu mets la chose à la lumière... Le diable, ça l'énerve, parce que son plan commence à être dévoilé. L'autre jour, j'avais moi-même une tentation. J'avais voyagé, j'étais allé à Londres. Et pendant tout le week-end, Dieu bénissait, c'était pour son œuvre, vraiment, la gloire de Dieu était là. Mais quand je suis rentré, j'étais à l'aéroport, les tentations ont commencé à venir. Les pensées ont commencé à venir. Puis je me suis fait un peu allumer, tout ça. Puis j'étais tout seul, puis j'ai commencé à me dire, si j'étais homme d'affaires, je raterais moins bien mon avion ce soir. Puis des pensées comme ça ont commencé, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai commencé à dire, non, je reste les pensées fixées sur Jésus. Et j'ai passé un week-end difficile intérieurement. J'étais vraiment tenté. Et alors après, la tentation me faisait voir les choses que sur les pertes. Alors je me disais, oui, mais regarde, je me fatigue tellement, pour quel résultat? Et puis après, j'essaie d'aimer les gens, et puis regarde parfois l'ingratitude. Et puis après, je dis, oui, regarde, j'ai mon épouse, mais là, en ce moment, elle est toujours occupée avec ses études. Et puis, ce serait mieux dans le monde, parce que comme ça, je serais marié de façade. Mais... Et puis, j'ai commencé à avoir des tentations comme ça qui venaient, des pensées mauvaises qui venaient. Et puis... C'est comme si l'oreille de la chair prêtait quand même une petite oreille, puis l'oreille de l'esprit disait non, Jésus. Et j'ai passé vraiment, alors d'autre part, j'avais passé vraiment des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui s'étaient passées, mais là au retour vraiment j'étais mal et j'ai commencé. Alors dans l'avion je fermais les yeux, j'essayais de penser à autre chose, j'y arrivais pas. Je savais que je devais commencer à prier, mais j'avais pas envie. vous est déjà arrivé ça de pas avoir envie de prier? Et quand vous n'avez pas envie de prier, grouillez-vous d'aller prier. Ça, je vous le dis, les amis. Parce que c'est le pire. Et je suis arrivé, et alors après, j'étais avec ma femme au retour. Alors ça, c'était un peu plus long, plus loin. On avait refait tout de suite un autre voyage et au retour. Et on venait à peine de se retrouver enfin ensemble. Et ma pauvre femme, elle voulait qu'on passe un temps en amour. Elle voulait qu'on puisse se reparler ensemble, etc. Et moi, la première chose que j'ai fait, je dis, chérie, ça va pas. Et j'ai commencé à lui déballer. Elle me dit, oui, mais c'est pas le moment, on a juste 5 minutes ensemble, est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose? Et s'il te plaît, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, etc. Je lui dis, écoute, non, ça va pas, j'ai un problème, il y a un problème, il faut que je t'en parle et tout ça, il faut que parce que là, ça va pas, il faut qu'on règle ce truc, parce que... Alors je me suis un peu grognon comme ça, vous savez, je suis un petit peu grognon de temps en temps, ça m'arrive un peu. Et puis, alors ma femme qui était là, qui m'avait pas vu presque, j'avais voyagé un mois sans arrêt, qui voulait vivre à un moment donné. Et c'est vrai que moi aussi j'avais, mais j'arrivais pas. Et j'ai dit, soit je continue à combattre tout seul dans mes pensées, et ça va être mauvais, même après pour notre relation, soit, eh ben tant pis, elle va souffrir encore 10 minutes que je me déballe, mais après ça ira mieux. Puis alors, on a eu une discussion un peu, tout ça, c'était pas facile. C'est pas facile de dire ces choses à sa femme. Mais moi, je lui ai dit. Alléluia. Alors, si elle me fait, mais tu vas voir, mais non. Alors après, je lui dirai plus rien, puis je dirai, oh. Mais justement, j'ai une femme intelligente qui me dit, ok, qui m'écoute, parfois elle flippe un peu, elle dit, mais elle sait qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, c'est vrai que ce soir-là, c'était pas la soirée la plus romantique qu'on ait vécue. Parce que chacun de son côté, en plus, moi, j'étais un peu grognon, alors je lui reprochais certains trucs, et puis... Je vous confesse, c'était pas bien. Hein. Alors le soir, on est rentré, puis moi j'étais encore grognon, puis je me suis mis dans la télé, puis je sentais, va prier, non, t'as vu l'heure qu'il est, certainement pas demain. Et puis je commence à faire du zapping, puis ça m'énerve, je me suis servi un petit apéro. Et puis ma femme arrive, elle voit que j'étais affalé, elle dit, ouh! T'es encore dans ta caverne. Alors, elle a compris une chose. Elle a compris. Il y a un dicton chinois qui dit. Il y a un dicton chinois qui dit quand l'homme est dans la caverne, pour les femmes, n'y rentrez pas. Il y a deux ogres qui gardent l'entrée. Et vous, les femmes, c'est le contraire, parce que vous avez, quand ça va pas, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire que ça va pas, vous avez besoin de parler. Mais un homme, quand ça va pas, il faut lui laisser la paix. Va téléphoner à ta maman si tu veux, téléphone à ta copine, mais fous-lui la paix, le mec, parce que lui, il a besoin de se retrouver, de réfléchir, n'est-ce pas? Alors, au début, Maria, elle voulait toujours rentrer, et puis il y avait des ogres qui étaient au bord de la caverne. Et donc, maintenant, quand elle voit qu'il est dans sa caverne, elle ouvre, elle voit le salon, elle voit ma place qui est là, mon affalement, elle dit, oh, il est dans sa caverne, je m'en vais. Et puis alors, souvent, elle fait ses petits trucs, tout ça. Et puis moi, ça me culpabilise un petit peu quand même, mais ça me permet de sortir plus vite de ma caverne quand même. Et alors, je vous donne un truc, hein, mes sœurs, faut pas essayer de dire, mais alors, qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi, t'as pensé quelque chose? Je pense que tu dois me foutre la paix. Non, au contraire, il faut laisser un petit temps, puis après le Saint-Esprit va travailler. Et alors, au lieu de venir faire une intrusion dans la caverne de votre époux, allez prier pour lui. S'il entend que vous priez pour lui, ça va l'énerver encore plus, mais il peut pas vous empêcher. Il n'y a rien de pire que vous, ça va pas, vous êtes un peu grognon comme ça et vous entendez prier. Au nom de Jésus maintenant, Seigneur, je prie maintenant que la paix de Dieu vienne, sinon tu touches maintenant, tu bénis, puis toi t'es là, oh, puis tu fais du zapping, puis t'es là, oh, j'ai pas envie, alléluia, mais Dieu te touche, alléluia. Et alors, je me souviens, c'était pas très simple ce soir-là, mais moi, j'avais eu une grosse victoire. Vous allez dire, c'est un peu égoïste, mais non, c'est pas égoïste. Parce que le diable était en train de prendre tellement mes pensées que si j'avais pas fait cela, j'aurais pu peut-être pécher par mes pensées. Vous comprenez? Tandis que là, ça a dévoilé le plan, ça a montré mon cœur à ce moment-là, ça a montré aussi ma fatigue, ça a montré mon découragement à un moment donné. Mais il faut savoir que toutes ces choses, même les sentiments les plus mauvais, ne sont que passagers. Ce sont des tentations. Il y a parfois des esprits mauvais qui nous tentent. Il y a parfois notre cœur, notre fatigue, notre impatience. Parfois, on a attendu des choses pendant si longtemps, alors soudainement, on commence à craquer, on n'y croit plus. Et c'est peut-être à ce moment-là que Dieu avait prévu de nous bénir. Il faut faire attention. Et si tu es tombé dans le péché, si tu es revenu à un moment donné en dehors des plans de Dieu, ben ne reste pas dans ce péché, va tout de suite te repentir. Si tu es tombé dans l'esprit du monde, tu reviens tout de suite en arrière. La Bible dit qu'il faut se marier, mais il ne faut pas brûler. Par exemple, pour prendre cet exemple, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Reviens tout de suite en arrière et ne reste pas seul. Et tu vois, moi j'avais dit ça à ma femme. On a dormi un bon coup, je me suis bien reposé. Et le lendemain matin, j'étais de nouveau tout amoureux. Je suis allé préparer le café, le au lit, tout ça. J'ai ramené ma chérie, tout ça. Et puis elle devait penser, hypocrite, hier tu disais pas ça. Hein. Hier tu pensais à ta blonde pulpeuse et aujourd'hui je suis ta chérie. Hein. Oui, peut-être. Peut-être, mais ça fait partie de la vie. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'est pas tenté est un menteur. Je ne peux pas vous croire que vous ne soyez pas tenté. Mais par contre, il y a une différence entre être tenté et donner de la place à ses pensées, donner de la place à cette tentation et donner de la place après au péché. Et c'est pourquoi l'homme est coupable et la femme est coupable lorsqu'elle pêche, parce qu'entre la tentation et le péché, il y a un élément au milieu, vous savez ce que c'est ? La volonté humaine. La volonté humaine. Je vous dis, bon, moi je ne vais jamais sur les trucs internet, je ne connais pas. Mais je sais que dans les métiers des uns et des autres, les informaticiens ou les gens qui s'y connaissent en informatique, internet c'est génial. C'est un sacré outil de travail qui vous aide beaucoup. Écoutez-moi bien. Mais parfois internet c'est dangereux. Parce que vous avez des sites là qui vous amènent directement sur des trucs. Et quand vous êtes là, d'après ce qu'on m'a dit, il y a toujours, ben, je crois, hein, je ne connais pas bien, mais dans les sites mauvais, là, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre et qui dit « voulez-vous continuer ?» ou un mot de passe ou un truc parental, je crois, parce que sur AOL, par exemple, il y a des trucs parental. Eh bien, c'est à ce moment-là. Tu peux être tenté d'aller jusqu'à l'ouverture de cette page, mais quand tu cliques « Voulez-vous vraiment entrer dans cette page ?» il y a bien le terme « voulez-vous ». Quand c'est écrit « confirmez-vous votre » ou « mettez votre mot de passe », il y a le « vôtre ». Et à ce moment-là, vient en jeu ta volonté. Si tu cliques à ce moment-là, alors là, tu as péché. Parce que ta volonté a péché. Et là, le diable va commencer à t'accuser devant. Et alors là, tu vas commencer à ne plus, mais tu vas commencer à douter, tu vas commencer à te refroidir, et tu vas commencer à faire à ce que les principes de la parole de Dieu, la merveilleuse parole de Dieu dont nous sommes fiers, qui sont inscrits là-dedans, et bien là, tu vas commencer à les regarder comme de la boue. Ouais, ben de toute façon, on peut rien faire quand on est chrétien. C'est pas que tu peux rien faire quand t'es chrétien. Tu peux faire tellement de choses, tu peux faire surtout tellement de bonnes choses. Et donc, il faut faire attention. Et pour revenir à ma petite histoire, mais moi, le lendemain matin, tout allait bien parce que j'avais pas gardé les choses dans les ténèbres. Et beaucoup de couples ont des problèmes, beaucoup de gens entre eux ont des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils ont laissé ça dans les ténèbres. Mieux vaut en parler à ton conjoint. Et si ton conjoint réagit mal avec jalousie ou quoi, ou qu'il te fait la tête pendant trop longtemps, tu me téléphones. Et moi, je vais aller le voir, ton conjoint. Je vais lui dire, dis donc, tu préfères quelqu'un qui confesse une tentation ou quelqu'un qui confesse son péché ? N'est-ce pas ? Et je vais le regarder dans les yeux. Est-ce que tu n'as jamais été tenté, toi ? Alors tu devrais dire merci à ton conjoint, ou merci à ton enfant, merci à ton paroissien, de ce qu'à un moment donné, il a pu dire ces choses parce que tu vas pouvoir intercéder pour lui. Et au lieu de faire la jalousie, puis commencer à plus avoir confiance, eh bien tu réagis spirituellement, tu dis, ok, alors on va faire une chose, on va se mettre en prière. Et tu te mets à genoux, à côté de ton conjoint, à côté de ton frère, de ta sœur. Si c'est un frère et sœur de l'église, tu te mets à genoux et vous commencez à prier. Tu commences à le bénir. Seigneur, au nom de Jésus, je le bénis, mon Dieu. Je le bénis, mon Dieu. Et je dénonce la puissance du malin au nom de Jésus. Comme nous avons fait ce matin avec les finances. Le diable s'apprêtait certainement à briser certains d'entre vous avec les finances, avec ce problème de désobéissance. Eh bien, grâce à ça, ce matin, peut-être, si tu le... Si tu le prends sans comment on appelle ça, mauvais caractère, ou sans dire comme ça, hein, si tu le prends avec intelligence spirituelle, tu vas voir que peut-être Dieu était à un moment donné là, ce matin, il a réveillé quelque chose parce qu'il veut te protéger, parce qu'il veut te bénir, parce qu'il veut plus pour toi. Alléluia.
Et moi, je peux vous dire que depuis que j'accomplis cette technique, eh bien, je suis fier de vous dire que mon amour grandit toujours pour ma famille et pour mon épouse, pour mon église aussi, mon amour grandit. Parfois, dans les conseils d'anciens, je me souviens, un jour, on était là, on sentait que c'était dur, et puis à un moment donné, il y en a un qui a commencé à confesser quelque chose. Et puis l'autre a dit, oh ben tiens, c'est marrant, moi j'ai eu la même tentation, on a eu le même souci pendant cette semaine. Et puis l'autre a dit, mais moi aussi. Et à un moment donné, tu te souviens, c'était vraiment beau, on a commencé à confesser nos tentations. Alors on s'est dit, est-ce que j'ai dit, ben ça y est, vous êtes plus digne d'être ancien? Ben non, parce que, comme je vous dis, celui qui me dit qu'il n'est pas tenté est un... Alors qui n'est pas tenté? Et je me souviens, on a commencé à prier ensemble. On a vécu une réunion formidable parce qu'on a commencé à prier ensemble. On s'est imposé les mains à tour de rôle. On a fait du combat spirituel. On a dit, Satan, diable impur, tu ne nous auras pas au nom de Jésus parce que tu travailles dans les ténèbres, mais les enfants de Dieu travaillent dans la lumière. Alléluia! Amen! Alléluia! Et je me souviens, après, on était bien et tout, on a pris l'apéro, on était contents. Alléluia, on avait une belle victoire. Alors, vous aussi, quand ça va pas, il faut pas vous sentir jugé dans l'église. Peut-être vous aurez des gens qui vont vous juger, c'est pas grave, ne vous défendez pas. Vous voulez un autre secret? Il faut pas se défendre soi-même. Si tu te défends, t'auras pas d'avocat. Les gens qui se défendent eux-mêmes, ils ne prennent pas d'avocat, non? Mais si vous voulez un bon avocat, laissez-le vous défendre. Quand on vous a critiqué, laissez-le vous défendre. Regardez, moi je peux vous montrer là, j'ai une lettre ici. Ah non, c'est pas celle-là. Ça, c'est une belle lettre, ça. Hein? Alors, où est-ce qu'elle est, cette lettre? C'est pas grave. Bon, bref, c'est comme si c'était celle-ci. Des pasteurs très importants qui me critiquent et qui vraiment m'agressent à cause de la réunion de leaders qu'on veut faire à Pentecôte. Le même jour, j'ai reçu 3 coups de fil de gens qui disaient les critiques infondées et injustes qu'on dit sur moi par rapport à certaines choses. Pour un, je prie trop fort, pour l'autre, je prie pas assez fort, pour l'autre, je suis trop jeune, pour l'autre... Et là, je vous le confesse, Église, pour que vous priez pour moi en ce moment, parce que là, comme le Seigneur est en train d'élever le ministère pour la France, je peux vous dire que ça cartonne. Oh ! Avant, j'aurais répondu. Et là, hier, toute la journée, dans la voiture, je mettais la louange, j'adorais le Seigneur. Alléluia. Et j'essayais de les bénir. Alléluia. Puis après, j'arrivais à les bénir. Et j'ai pas encore répondu. Bon, je vais bien stabiloter les points, voir les erreurs qu'il y a, les mensonges, tout ça. Et puis, je vais téléphoner à des aînés pour leur demander conseil. Avant de répondre. Et je vais voir comment je peux servir ces frères, comment je peux les bénir. Si je peux amener quelqu'un au Seigneur et remplir leur église, alléluia. Si je peux faire quelque chose pour les bénir, je vais les bénir. Mais une chose est claire, c'est que je ne veux pas laisser mon cœur être affecté par ces choses. Et dans l'Église, il y aura peut-être parfois des gens qui peuvent te juger à un moment donné, mais c'est normal aussi parce qu'on ne se comprend pas, on n'est pas fait pour se comprendre. On est différent, on n'a pas les mêmes positions. Celui qui me critique tout le temps, il n'a qu'à venir pour 15 jours mon poste, après on rigole. Hein? Et c'est pareil pour celui qui vous critique, qu'il prenne votre situation et puis après on... Donc c'est clair que parfois il y a des situations comme ça, mais on ne doit pas y rester. On doit faire attention. Et puis surtout, il faut essayer de ne pas juger celui qui est tenté. Et si un jour quelqu'un confesse son péché, même à l'église, ou confesse sa tentation, ou confesse le problème qu'il peut avoir, au lieu de le juger, dire oh, à table, le midi, le dimanche midi, t'as vu le frère? Oh, t'as vu la sœur? Oh, ben dis donc, hein, ne pas prier souvent. Au contraire, il faut s'affliger. Il faut s'affliger pour la situation de l'un et de l'autre. Il faut le prendre à cœur. La Bible dit que quand l'un est triste, tout tout le monde est triste. Mais quand l'autre est dans la joie, tout le monde est dans la joie. Alléluia! Je me réjouis de ce qui s'est passé pour la sœur Sarah. Aujourd'hui, elle nous a dit, oh là, il y a une tentation, le banquier veut me donner une tentation. Je fais un coucou à Benoît. Il sait pourquoi. Eh bien, c'est génial de pouvoir dire « Alléluia !» On va prier et puis vous allez rentrer chez vous et ce soir, dans votre culte personnel avec votre épouse et avant de faire coucher les enfants, je suis sûr que vous priez tous pour vos enfants et vous priez tous avec vos enfants avant de les coucher le soir, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous allez faire ça, vous allez dire « Eh bien, écoute, mon fils, ma fille, tu te souviens la sœur qui avait besoin de la bénédiction de Jésus ce matin ?» Eh bien, on va prier encore pour la sœur Sarah qui a besoin d'une bénédiction. Alléluia! Amen! Et on va enseigner nos familles à bénir au lieu de maldire. Donc, maldire, c'est maudire. À édifier au lieu de casser. Et en France, on n'a pas cette culture, mes amis. On n'a pas cette culture. Donc, pour nous, c'est deux fois plus dur. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons, pour nous, parfois, ils nous paraissent hypocrites parce qu'ils sont toujours en train de dire « Ah, oh, c'est génial, cool, man, fun. Wow, tell me what you've done. Et tout. Dis-moi ce qui s'est passé pour toi. Oh, comment t'as fait pour avoir ta grosse entreprise. Ah ouais, balèze et tout. » Nous, le mec, il a une grosse entreprise, il a un gros cabinet. Tout ça. Ouh, c'est louche. Qu'est-ce qu'il a fait? On va le dénoncer aux impôts. N'est-ce pas? On va dire « Il y a quelque chose de pas normal. » Puis dans les églises, on est un petit peu comme ça aussi. Au lieu d'édifier, au lieu de se réunir et de chanter des cantiques, comme dit la parole de Dieu, de prier, combien de fois on se réunit pour critiquer? Et à ce moment-là, eh bien, on freine l'œuvre de Dieu. Parce que ça n'est pas notre rôle. La Bible dit ne jugez pas, parce que si vous jugez, vous serez vous-même jugé. Déjà, en premier lieu, par le diable, ensuite par la tentation qui va vous avoir, et deuxièmement, par le Seigneur qui vous dira aussi que celui qui n'est jamais tenté, exactement. Alors, mes amis, nous devons apprendre, et ce serait cool que parfois j'entende « Ah, l'autre jour, je déjeunais chez... qu'est-ce que je peux prendre ?»« Ben, Chantal, hein, je déjeunais chez Chantal. Après, on s'est mis à prier, le Seigneur nous a donné une parole, on a commencé à s'édifier les uns les autres et tout ça, puis finalement, on devait se quitter à 10h le soir, on s'est quitté à 11h30. Alléluia! C'était glorieux! Waouh! Alléluia! Laurence, un jour, j'apprends que quand on est invité chez Laurence, il faut faire gaffe, parce que l'Esprit de Dieu tombe tellement fort après le repas que ça prie, ça bénit l'œuvre de Dieu, ça dit « Seigneur, on veut s'engager, etc. » La Bible dit « Édifiez-vous par des choses intelligentes, intéressantes. » Nous devons nous encourager. Alors, si tu es dans la tentation, demain, le bureau est ouvert. Téléphone-moi, téléphone au pasteur Alexandre. Dis, téléphone à Caroline, dis « Caroline, j'ai quelque chose à dire. » Reste pas tout seul. Dans ta voiture, dans ton camion, dans... Reste pas tout seul. Tu téléphones. Il y en a un jour, il va rigoler. Il m'a téléphoné le jour de mon jour de congé. J'en ai pas souvent. Tôt le matin. Oh, la seule fois où je pouvais dormir. Il m'a dit, pasteur, téléphone-moi. Eh bien, je vous assure que je l'ai pardonné avec joie. Alléluia. Et je me suis réjoui de ce qu'il a pu me téléphoner parce qu'il avait une tentation, il ne voulait pas tomber dans la tentation. Ça, c'était chouette, alléluia! Amen! Merci Seigneur! Ne faites pas à chaque fois exprès le mercredi matin, s'il vous plaît. Si vous avez une tentation, réglez-la le mardi ou le jeudi, ça me fera plaisir quand même, d'accord? Mais je veux dire, je préfère cela qu'après devoir pleurer des conséquences de celui qui tombe dans une souffrance ou qui se laisse aller. Parce que si tu te laisses aller dans les mauvaises pensées, après, va essayer de faire ton culte personnel. C'est vrai ou pas? Quand tu as une mauvaise pensée, quand tu as une pensée de critique, une pensée où tu voulais te venger dans ton travail, où tu dis « Oh, la peau de vache, elle m'a fait ça, purée, je vais lui éteindre son ordinateur avant qu'elle ait enregistré ses données. Ah, elle verra bien. » mais parfois, on peut avoir des sacrées pensées. Je sais pas, là, je délire un petit peu, mais... Parfois, c'est un peu comme ça. Quoi. Il ira se faire pas. La prochaine fois qu'elle voudra que je le remplace dans un jour de congé, je lui dirai « Non, je ne peux pas, je suis attendu. » Eh bien, quand on laisse aller, quand on laisse cours à toutes ces choses, c'est difficile d'aller prier ensuite, hein, n'est-ce pas? Et au plus le temps passe, au plus c'est difficile de revenir dans la prière. Déjà, si vous ne faites, ne priez pas tous les jours dans votre culte personnel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le culte personnel, c'est le temps qu'on passe avec Dieu chaque jour. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent 5 minutes, parfois 10, 15, puis hop, ça y est, c'est fini, j'ai fait ma BA, je suis en VB. Non, il faut essayer de passer un peu de temps chaque jour. Ne reste pas trop longtemps, même si tu as du sommeil à récupérer, tout ça. Ne reste pas trop longtemps sans faire ton culte personnel, parce que si tu ne le fais pas pendant un jour, ça va. Pendant deux jours, ça devient déjà plus difficile. Pendant trois jours, après, pour t'y remettre à lire la Bible, c'est plus dur. Pendant quatre jours, si tu dépasses la semaine, alors t'es foutu. Après,
tu lis la Bible que ça? Ouais, ça te touche pas vraiment.
C'est comme s'il n'y a plus la vie dedans, il n'y a plus l'esprit dedans. Vous comprenez? Et donc, c'est quelque chose qui est important de se discipliner là-dedans. Il y a des jeunes que je suis qui vont certainement un jour se fiancer. Ils ne sont peut-être pas forcément d'ici. Et l'autre jour, je faisais un entretien avec eux. Et il me disait quelque chose que j'ai trouvé génial. Tous les matins, ils se téléphonent pour prier ensemble par téléphone et pour lire la Bible par téléphone. Et ils font leur méditation le matin. Et ils prient l'un pour l'autre. Ils ne savent même pas encore, ils sont dans la période de prière, ils ne savent même pas encore si Dieu destine telle ou telle personne. Donc ils ne flirtent pas, ils sont simplement dans une amitié. Et déjà, tous les matins, il se téléphone. Et il me disait, pasteur, cette semaine, ça a été plus difficile. Et il y a eu tel et tel événement. Et donc, on n'a pas pu se téléphoner tous les matins. On n'a fait que tous les deux matins. Et là, ça ne va pas. Je sens que déjà, je ne me sens pas bien. Moi, j'étais là, incrédule. On était dans un café. Je dis, waouh, je les ai admirés. Vous imaginez, s'ils n'étant même pas en projet de pouvoir... Enfin, ils sont quand même un petit peu en projet. Ils sont en prière avancée, dirons-nous. N'est-ce pas? Mais ils respectent, ils ne vont pas trop vite, ils attendent, ils se laissent la liberté, etc. Ils font les choses bibliquement. Moi, je peux vous dire que ces jeunes-là, moi, je veux les voir dans quelques années. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils soient puissants dans l'onction. En tant que couple, si Dieu veut que... Mais déjà, quand ça commence sur des telles bases comme ça, nous, les pasteurs, est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir dire non? Sauf si Dieu nous dit vraiment, fais attention, mais ça commence bien. Ils apprennent à prendre du temps, non seulement pour eux-mêmes, mais à mettre Christ premier, servi, même dans leurs relations. Et ça, c'est vraiment beau, n'est-ce pas, vous trouvez? Parce que ça va leur donner une force, ça va leur donner un fondement, ça va leur donner une bonne habitude, une discipline de l'âme qui va être salutaire, qui va être une bénédiction. Alors, nous aussi, mes amis, lorsque nous avons ces soucis-là, nous devons profiter d'être un corps. Profiter que nous sommes une église. Une église, c'est pas, ça y est, un bâtiment, je vais à l'église le dimanche. Non! Tu vas pas à l'église le dimanche. Toi, un bout d'église, tu vas dans le corps pour permettre que l'église s'épanouisse. Alléluia! Et tu viens pas seulement comme ça ou pour recevoir, etc. Tu viens participer, tu viens donner un culte à Dieu, tu viens t'ouvrir, tu viens dire à ton âme, mon âme, loue le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner pour faire construire cette église que je suis? Alléluia. Et donc, tu as déjà vu, toi, des gens qui sont là et qui, tous les matins, quand ils se lèvent, ils se font une incision. Ah, c'est cool, hein, encore une marque. Et puis, ils se lèvent le matin, ils prennent le miroir. Ils voient leur voisin qui dit, qui arrive, ah, salut Bill, ça va? Ouais, donne-moi un bon coup de poing. Oh, Tu me rends pas? Non, non, donne-moi un bon coup de poing. Casse-moi le nez ce matin.
Oh, c'est super, j'ai le nez cassé. Oh, aujourd'hui, je passe une bonne matinée.
Et tous les matins, il se réjouit de ce qu'il se fait quelque chose de mal. Il prend un café le matin, il met du sel dedans. Il dit, prends du café salé. Et il est là. Ah, et dit, ah, ça c'est la vie, hein, ça c'est cool, je me fais du mal. Vous avez déjà vu beaucoup de gens comme ça? C'est plutôt le contraire, hein, le matin dans la glace. Surtout quand on est, hein, certains, bon. Puis, on est là, ah, on est bien, on veut se faire du bien. Eh bien, dans l'église, parfois, c'est le contraire. Il y a des gens qui aiment se faire du mal. Les critiqueurs, les gens qui râlent tout le temps, qui sont en train de dîner. Eh bien, c'est comme s'ils font une incision à leur propre corps, parce que vous êtes l'église, nous sommes l'église. Si tu vas mal, je vais mal. Là, cet après-midi, je sais que je vais passer pas une très bonne après-midi. Enfin, si, parce que on a des amis à la maison. Mais si j'avais pas eu des amis à la maison, je crois que j'aurais beaucoup gambergé. Oh, pourquoi un tel n'est pas venu et l'autre? Et quand vous venez pas à l'église, moi, ça me gâche ma semaine. J'ai tort, mais je vous aime trop. Alors après, je commence à penser, Seigneur, j'espère qu'il n'a pas eu une tentation. Ouh, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Pourquoi il n'a pas mis en priorité le royaume de Dieu et sa justice? Ouh, parce que je connais tellement les méthodes du diable que quand c'est comme ça, franchement, demandez à ma femme, je crois qu'elle peut confirmer, puis je crois que le pasteur Alexandre, c'est la même chose, hein. On a cette maladie-là, ou cette bonne maladie, je pense, c'est qu'on vous aime, on peut pas se passer de vous. Et quand vous commencez à vous affaiblir, nous, ça nous fait mal. Et ça, c'est bon, alléluia! Il faut que nous gardions cette capacité d'accueil de l'autre. Et accueillir l'autre, c'est parfois accueillir son bonheur. C'est aussi accueillir sa plainte. Parfois, c'est accueillir sa tentation. Accueillir sa souffrance. Accueillir son partage. Mais aussi accueillir son projet, accueillir son bonheur. Accueillir. Vous voyez, alors accueillir, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Nous sommes là quand même les pasteurs pour essayer de vous guider sur la voie. On ne va pas vous dire tous les cinq minutes, oui, Dieu m'a dit que, et puis comme ça. Sinon, si on fait ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'auriez plus de volonté propre et que, du coup, vous ne pouvez pas grandir. Donc, parfois, on ne dira rien, parfois, on se taira, etc. On ne sera pas toujours, mais on ne sera pas toujours à l'aise et on va prier pour vous. Mais dans l'église, les frères et sœurs doivent savoir accueillir l'autre. Alléluia. Je dis, mon frère, prie pour moi. Alléluia. Alors, lorsque tu es tenté, lorsqu'il y a un problème, profite d'avoir une église qui t'aime. Et je peux vous dire que dans cette église, il y a de l'amour. Et vous, vous avez de l'amour. Et je crois que tout ce qu'on a pu faire pendant toutes ces années, tous les efforts qu'on a fait les uns les autres, ce qu'on a, voyez un peu, tout ce que Dieu fait, les conversions qu'il y a, c'est parce qu'il y a de l'amour. Amen. La prière qu'il y a, quand je vous vois louer le Seigneur, quand je vous vois intercéder, quand je vois les kilomètres que vous faites pour servir le Seigneur, c'est parce qu'il y a de l'amour. Et moi, je suis fier d'être pasteur dans cette église. Parce qu'il y a de l'amour. Nous devons donc savoir accueillir l'autre. Alors demain, si ça n'allait pas aujourd'hui, si vous aviez des tentations, si vous connaissez des gens dans l'église qui ont des tentations, qui ne sont pas là ce matin, envoyez-leur la cassette ou dites-leur, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Dis-la. Exprime-le. Et je peux te dire qu'une fois que tu l'as exprimé, tu es soulagé. Et après, tu reprends des forces. Tu reprends du courage. Et le Seigneur nous bénit. Alléluia. Voilà, ça c'était mon introduction. Maintenant, je vais commencer le message. Non, c'est pas vrai. Mais je ferme mon ordinateur parce que j'ai pas fait le message que j'avais prévu. Alléluia. J'ai envie de chanter en ce moment, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous devons l'être. Amen. Nous avons besoin de cet amour, nous avons besoin de nous manifester cet amour. Mais il ne faut pas Je le répète, et je vais terminer là-dessus. Mes amis, aimez la parole de Dieu. Aimez les principes de la Bible. Lisez-la. Allez, je vais vous demander honnêtement. Qui a du mal en ce moment à lire la Bible tous les jours? Levez la main, s'il vous plaît. Bien haut que je puisse vous voir. On est nombreux, hein? Et moi, je suis votre pasteur et je peux vous dire, avec tout le travail que j'ai, les voyages que je fais, etc., il y a des jours, j'ai du mal aussi à lire ma Bible. Qui ne fait pas régulièrement son culte personnel? Je vous demanderai de lever les mains. Ici, de toute façon, personne ne juge. Alors, on va s'engager, on va essayer cette semaine. Et si on n'y arrive pas, on se téléphone. D'accord? Ou on essaie de regarder son frère, sa sœur, dire, dis donc, cette semaine. Alors moi, j'en ai repéré deux ou trois. Alors, ceux qui ont du mal à faire leur culte personnel tous les matins, ou régulièrement au moins plusieurs fois dans la semaine, ben, je vais vous demander de lever la main encore une fois, et puis les autres frères et sœurs, mais il faut être honnête devant Dieu, hein. Vous allez les repérer sans les juger, et vous allez vous dire, cette semaine, je vais prier pour eux, et même un d'entre eux, je vais lui téléphoner, pour lui demander s'il a réussi cette semaine. Ok? Allez, on y va? Si vous êtes d'accord. Alors bien haut, pour ceux qui ont ces difficultés, moi je lève ma main aussi. D'accord? Alors on est plusieurs. Alors voilà, on va se mettre debout, d'accord? On va se mettre debout. Non, pas tout le monde, seulement ceux qui ont ces difficultés. Et vous allez voir, on va vous bénir cette semaine, ça va être une semaine de bénédiction pour vous. Celui qui juge que Dieu s'occupe de lui, n'est-ce pas? Okay. Levez-vous ceux qui ont un peu ces difficultés en ce moment, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, hein, d'accord? Ok, d'accord? Alors, et puis, c'est tout, je sais qu'il y en a encore d'autres, hein? Faut le faire, hein? Y a pas, c'est pas un problème si ça arrive, hein? Si vous avez du mal à prier chaque matin pour prendre du temps avec le Seigneur. Ok. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ne se sont pas levés le font. On est bien d'accord? D'accord, Dieu est témoin. Alors, mes amis, on va se regarder et on va regarder un peu qui c'est. Et cette semaine, on va faire quelque chose. On va soutenir nos frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'on va les aider à avoir leur victoire. Donc, on va essayer de regarder une ou deux personnes et on s'engage à lui passer un coup de fil cette semaine. Et prier pour le frère, pour la sœur par téléphone. Oh, il va y avoir des coups de fil, hein. Alléluia. Vous êtes tous debout, c'est parce que vous avez des difficultés ou c'est parce que vous ministrez? Alors, si vous avez des difficultés, levez les mains aussi. Vous pouvez être leader, vous pouvez être des leaders et avoir des difficultés. Ceux qui ont des difficultés à prier tous les matins, levez bien les mains, levez les mains si vous êtes ici. Voilà, donc on regarde aussi parce qu'ils ont aussi besoin de nous, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on sert le Seigneur qu'on n'a pas de difficultés, parfois on en a encore plus. D'accord? Voilà. Alors, les autres personnes de l'église, vous avez repéré quelqu'un, regardez autour de vous et regardez dans votre cœur la personne que vous voulez appeler cette semaine pour l'encourager. Moi, j'ai déjà repéré quelqu'un que je vais voir aujourd'hui. Je vais lui demander qu'il m'encourage et moi je vais l'encourager. Alléluia. Et on va apprendre dans cette église à nous soutenir les uns les autres. Parce que si vous devenez fort dans cette difficulté, et je vous dis quelque chose, bienvenue au club, hein, eh bien, vous allez avoir de nouvelles victoires dans votre vie de famille, dans votre force intérieure, et vous allez pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. Alors maintenant, on va tous se lever, on va se donner la main, et on va conclure en disant, nous sommes un dans un lien d'amour. Et j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, si vous avez des soucis parfois, je vous le répète, ne restez pas, comment ?
Seul.
Ne restez pas dans l'ombre, parce que le diable travaille toujours dans l'ombre. S'il y a même une tentation qui est très difficile à avouer, il ne faut pas l'avouer à n'importe qui, parce que ce n'est pas le but. Mais téléphonez à un de vos serviteurs. Il y a Alexandrie, il y a moi qui est là, il y a Stéphane aussi qui est là. Téléphonez-nous. Où il y a Anne-Marie aussi qui est là, ou les anciens. Et dites, Freddy, je vais me casser la figure, je te préviens juste, hein. C'est sûr, je vais le faire, j'en ai marre. Râle un bon coup au téléphone. S'il faut, ça ne me dérange pas, tu peux dire tout ce que tu veux, déballe-toi. Mais tout ce que je veux, c'est pas que tu sois poli, c'est pas que tu cries pas, c'est pas que tu râles pas. Même si tu râles, tout ça, je m'en fous. Ça, ce que je veux, c'est que tu apprennes juste à le dire. Pasteur, je vais me casser la figure. De toute façon, maintenant, je l'ai décidé. Tu peux même me dire ça si tu veux. Mais téléphone. Ne laisse pas le diable venir. Parce que nous devons apprendre à résister à la tentation. Et nous avons besoin les uns des autres pour cela. Alléluia. Nous avons besoin les uns des autres. Alors maintenant, pendant que la musique va juste chanter ce chant pendant un instant, je vais vous demander de fermer les yeux. Et de prier pour ton frère, pour ta sœur qui est à ton côté. De lui transmettre de l'amour. Il faut que presque l'amour soit si fort, ça fait comme une électricité qui passe entre vous. Allez-y, priez maintenant. Et commencez à pleurer. Commencez à intercéder, à bénir, à donner, à communiquer de l'amour à votre frère, votre sœur. On est là pour se soutenir. On est là pour se serrer les coudes. Parce que c'est parfois dur d'être chrétien. Parfois c'est dur d'être là et de résister parfois. Parfois on est fatigué. Parfois on ne sait plus comment faire. Mais nous, dans cette église, on veut s'aimer. Il y a de l'amour dans cette église. Alléluia. Et on veut se communiquer cet amour. Je t'aime, mon église. Je t'aime, ma chère église. Fermez les yeux, priez les uns pour les autres. Sache une chose, c'est que je t'aime. Je suis ton pasteur. Parfois, je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais je t'aime comme un fou. Je prie pour toi comme un fou. Je t'aime et dans cette église, il y a de l'amour et je suis là pour te soutenir. Alléluia, prions ensemble. Oh, Satan, diable impur, tu n'auras aucun pouvoir parce qu'aucun d'entre nous ne va tomber. Et si quelqu'un est tombé, si quelqu'un a péché, il va pouvoir oser se repentir. Il va pouvoir oser revenir vers Dieu parce qu'il veut vivre heureux. Il ne veut pas que le diable soit son patron. Il veut que Jésus soit le roi. Oh oui, fondons-nous sur la parole de Dieu. Fondons-nous sur la Bible. Alléluia, Seigneur. Alléluia, nous sommes un. Dans un lien d'amour. Qu'il y ait de l'amour dans notre église. Qu'il y ait de l'amour dans nos couples. Qu'il y ait de l'amour dans nos familles. Qu'il y ait de l'amour entre nous. Oui, parfois nous ne nous comprenons pas. Parfois nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais il y a de l'amour. Alléluia. C'est le principal. Soutenons-nous les uns les autres. Alléluia. Oh, bénis ton frère, bénis ta sœur. Si tu as envie de mettre ta main sur ses épaules, ta main sur sa tête pour le bénir, tu le mets. Bénissez-vous maintenant. Priez maintenant. Touchez-vous, bénissez-vous, embrassez-vous. Dites-vous maintenant, je suis là pour te soutenir. Allez, on va gagner parce que c'est Jésus notre maître. C'est Jésus notre sauveur. Alléluia. Nous sommes grands, nous chantons tous ensemble. Et que son amour nous rassemble, tenons-nous par la main, et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour.
Alléluia, on monte, alléluia.
Dans un lien d'amour.
Allez, aimez-vous les uns les autres, communique la vie. Je sens comme une électricité dans mes mains. Je sens comme une bénédiction dans mes mains. Je te bénis, ma chère église. Je te bénis, même si tu es tenté, même si c'est dur. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Et personne ne te rejette, personne ne te juge. Parce que nous sommes frères et sœurs. Et nous sommes là pour nous soutenir. Nous sommes là pour nous aimer. Même si c'est dur, je suis là. Alléluia, Jésus est là.
Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour fleure. Tenons-nous par la main. Et le monde verra. Nous sommes dans un lien.
Alléluia encore.
Dans un lien.
Maintenant tous ensemble, nous disons Seigneur, nous sommes ton église et nous nous aimons Seigneur et nous voulons t'aimer Seigneur et le diable ce matin est dénoncé parce que nous serons forts, nous serons fiers d'être chrétiens, nous serons fiers de Jésus parce que nous sommes un dans un lien d'amour Seigneur. Nous sommes imparfaits, mais toi tu nous perfectionnes. Alors maintenant chantons. Ori baba baba shika baba basika baba shika mama se. Ori baba mama shinga masande ni ori baba baba. Reçois la bénédiction Église. Sens-toi béni Église, sens-toi béni Église. Laisse-toi bénir par Jésus. Je t'aime Église. Le Seigneur te bénit maintenant. Le Seigneur te bénit maintenant. Ori baba bashinga la masandai. Laisse-toi bénir maintenant. Laisse-toi toucher par l'onction. L'onction des dieux est là encore. Alléluia. Maintenant, laisse-toi bénir. Koruba shamba masanda masheita ramba masai. Reçois, 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 reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Reçois la protection de Dieu. Reçois la protection du Seigneur maintenant. Reçois sa guérison. Sens-toi aimé. Tu fais partie de l'Église. Tu fais partie du corps et le corps a besoin de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, l'onction de Dieu est là, nous bénissons. Reçois, reçois, reçois.
Maintenant, dans un lien d'amour,
sois béni, ma chère Église. Laisse-toi aimer par Jésus. Tu es accepté. Tu es une personne que nous apprécions, que nous aimons. Et nous voulons te le dire aujourd'hui, que ton esprit est uni avec le nôtre. Et Jésus nous bénit maintenant. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train de bénir. Alléluia. Oh. Alléluia.
Oh, maintenant, chantons tous ensemble.
Nous allons chanter ce chant qui dit oui,